Les matins de France Culture, Nicolas Martin.
Et à 8h20, nous poursuivons donc notre iconographie de l'année 2016 en compagnie d'André Gunther, enseignant-chercheur, maître de conférences en histoire visuelle à l'EHESS, et Lionel Charrier, rédacteur en chef photo du journal Libération. Je vous rappelle que toutes les photos que nous évoquons sont postées en même temps sur le fil Twitter des matins. Vous nous avez même proposé pendant la première partie certaines des photos qui vous ont le plus marqué, dont nous allons parler dans quelques instants. Mais j'aimerais qu'on parle avec vous deux pour commencer de cette photo. Peut-être parce qu'elle est très récente, mais qui est une photo qui m'a marqué personnellement, qui a marqué un certain nombre de gens et qu'on a évoqué tout à l'heure dans la première partie, c'est cette incroyable photo de l'assassinat de l'ambassadeur de Russie en Turquie. Photo prise le 19 décembre par Burhan Özbilici d'Associated Press. Qui veut la décrire, André Gunther?
Alors, là aussi, c'est une image que tout le monde a vue.
Une image très très puissante.
Qui représente un personnage, donc un jeune homme en costume cravate, qui tend un doigt menaçant vers le ciel et qui s'adresse en hurlant à un public invisible, avec à ses pieds le cadavre de l'ambassadeur russe qu'il vient d'assassiner.
Et une arme, pistolet.
Et son pistolet.
Dans l'autre main. Pourquoi cette image est à ce point-là marquante, selon vous, André
Gunther ? Une image très particulière. C'est une image qui a la particularité d'évoquer plus la fiction que le photojournalisme, à cause d'un certain nombre de caractéristiques, à cause d'un certain nombre de détails, comme le costume cravate, le décor de la galerie très blanc, qui donne une image extrêmement lisible, avec une lisibilité dont finalement on n'a pas l'habitude dans la photographie documentaire photojournalistique habituelle, qui est souvent une image qui vient après l'événement, qui est une image de constat,
d'a posteriori, de conséquence.
On voit des images de douleur, des images de souffrance, des choses comme ça, mais assez peu finalement des images d'action. Alors du coup, cette image qui est très exceptionnelle en termes photojournalistiques, et dont il faut bien se rendre compte qu'elle n'a pu être réalisée que parce qu'il y avait, par hasard en quelque sorte, en tout cas parce que les journalistes étaient présents pour un autre motif, et évidemment pas pour photographier un assassinat. Donc en raison de cette coïncidence, on a une image très exceptionnelle dans l'action, mais qui, en l'absence finalement d'un référent iconographique dans le photojournalisme, renvoie notre imaginaire au cinéma d'action, à une image de fiction. Et donc, c'est cette conjonction de la fiction et du réel sur cette image qui produit cet effet de bluffant, extrêmement particulier.
Lionel Charrier ?
Effectivement, mais en revanche, ce n'est pas vraiment un hasard ou une coïncidence. C'est quand même le choix du tueur.
Tout à fait, on est d'accord.
Le choix du moment.
De faire ça pendant une conférence de presse, puisque l'ambassadeur.
Il a attendu que les caméras soient en route pour pouvoir l'assassiner. Il aurait pu le faire avant, il aurait pu le faire après. Donc c'est un policier qui s'est fait passer pour le garde du corps de l'ambassadeur russe. Donc finalement, il a choisi sa scénographie.
Moi, je voudrais vous dire quelque chose aussi à propos de cette image qui m'a marqué, et ce qui change peut-être aussi le statut de ce cliché, c'est que, vous l'avez évoqué, André Gunther, c'est qu'il s'agit d'un cliché sur le vif, mais pris par un photographe professionnel. Or, récemment, dans ces affaires d'assassinat, de terrorisme, on a été habitué, peut-être depuis le 11 septembre, à ce que ces images soient des images amateurs, donc de mauvaise qualité, dégradées, pas cadrées. Or là, c'est une image réalisée par un professionnel, ce qui change aussi la nature même de cette image, André Gunther.
Exactement, d'ailleurs, je vous le fais remarquer, comme la photo du petit Aylan, qui était également faite par une photographe professionnelle qui était présente sur les lieux pour une autre occasion, et qui du coup a pu photographier. Donc ça veut bien dire, la force d'une image, ça ne se produit pas n'importe comment. Il ne suffit pas d'avoir effectivement n'importe quelle image, une image amateur, mal cadrée. Voilà, la composition de la photographie recadrée de Burhan Özbilici, effectivement, elle est très forte parce qu'elle a été recomposée. Quand on voit les autres images qui existent, il y a eu beaucoup d'images.
Il y a trois photographes en tout cas.
photographes, il y a une vidéo, il y a eu beaucoup d'images, ces images ont circulé, donc on a vu à peu près, on a vu le champ et le contre-champ, hein, on a la photographie de Yavuz Al-Attan qui montre le contre-champ de l'image, où on voit Özbilici en train de prendre la photographie qui va devenir célèbre, donc c'est assez extraordinaire, c'est vrai qu'on a une scénographie comme on a rarement eu d'un événement, hein, champ, contre-champ, vidéo,
en fait,
photo.
Tout est extraordinaire dans ce moment, c'est que déjà le moment est extraordinaire parce qu'il nous rappelle qu'enfin l'assassinat d'un ambassadeur russe, effectivement, ça nous rappelle l'assassinat de Sarajevo, enfin le début d'une guerre.
Ce que je trouve amusant d'ailleurs, c'est que ça renvoie à cette autre image qui n'a rien à voir, qui est une gravure imaginaire, puisqu'il n'y avait personne. C'est-à-dire que on a beaucoup parlé de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, et qu'on comparait cette image à un dessin.
Un dessin, effectivement. Il y a une photographie après, en fait, de l'arrestation du meurtrier. Mais on compare ce moment-là parce qu'il y a très très peu de moments où on a un assassinat comme ça proche par balle d'un ambassadeur. Bon, c'était un archiduc, mais c'était en tout cas un représentant d'État. Effectivement, entre la Russie et la Turquie, on aurait pu s'imaginer que s'il n'y avait pas eu ce rapprochement, ça aurait pu déclencher effectivement des choses plus graves. Donc le moment est déjà assez exceptionnel. Ensuite, c'est vrai que cette image, elle est extrêmement cinématographique par ce qu'a décrit M. Günther. C'est-à-dire, déjà, on a rarement vu quelqu'un en costard noir, cravate, chemise blanche, avec un flingue, un pistolet, ayant assassiné comme ça par 11 balles un ambassadeur. Donc ça, c'est impressionnant. Et ensuite, parmi toutes les images qui ont circulé, finalement celle-là, elle a la force de, évidemment, de la du visage, ouais, de la composition avec ce doigt. Ce doigt est assez incroyable. Il est extrêmement long. Il est assez presque plus puissant que le flingue. D'ailleurs, tu as décrit le doigt avant le flingue.
Mais est-ce qu'on pourrait rester juste une seconde sur la composition, parce que il faut quand même se rappeler qu'il existe également une vidéo de l'ensemble de la scène. Et la vidéo, elle est beaucoup moins glamour. On voit un type qui
glamour,
hurle.
C'est un mot fort pour un assassinat.
Non, mais je veux dire, cette photo marque encore une fois parce qu'elle renvoie à un imaginaire cinématographique. Et quand on dit elle est bien composée, je veux dire qu'il y a aussi un côté mensonger, c'est trop dire, mais artificiel. Hein. Il faut bien quand même se rendre compte que c'est un arrêt sur image, hein, que la photographie, l'instantané ne donne pas toute la réalité d'une scène. Et c'est vrai que quand on le voit en vidéo, on a une autre impression. On a une impression beaucoup moins cinématographique et beaucoup plus cruelle.
L'impression de la réalité, c'est-à-dire de l'assassinat.
On a les cris des gens,
froid,
on a les coups de feu. On a une ça glace le sang. Hein. Cette photographie, elle nous emmène ailleurs.
Ce que vous êtes en train de dire,
c'est sa composition qui produit cet effet, qui est un petit peu artificiel.
C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire l'un et l'autre, c'est que cette photographie, la composition, l'aspect fictionnel de cette photographie met à distance de la réalité sordide de l'assassinat de sang-froid d'un ambassadeur devant des caméras.
Dans les réactions qu'on a vues, j'ai vu des gens qui disaient « quelle image !» pour une exclamation, comme s'il s'agissait effectivement d'un tableau, ce qui est tout de même assez surprenant pour l'image d'un assassinat, et je crois que c'est une image qui est aussi particulière parce qu'elle se met à distance de l'événement.
Et il faut dire quelque chose pour rebondir sur ce que nous disions tout à l'heure, puisque tout à l'heure nous parlions de deux photographies, celle du selfie d'Hillary Clinton et celle de Mark Zuckerberg marchant au milieu de journalistes avec des casques de réalité virtuelle, qui étaient deux images de communication détournées de leur usage de communication pour devenir autre chose, pour devenir iconique, etc. Là, finalement, on a l'impression, dans ce que vous dites, que comme effectivement le terroriste a choisi cet endroit pour marquer indiscutablement l'image et pour avoir une image de son geste meurtrier, est-ce que finalement cette fictionnalisation, ça n'est pas, se retourne pas contre lui, contre son geste, contre la mise en scène pour faire de cette image une sorte d'image qui est complètement vidée de son sens politique? Lionel Charlier ?
Non, je pense que là, ce qui est important, c'est le pouvoir de la photographie, de l'instant. C'est-à-dire qu'effectivement, cette image, au-delà de la composition qui est quasi parfaite aussi parce qu'elle est recadrée, donc tous les éléments sont bien placés, c'est la gestuelle quand même, c'est-à-dire qu'il y a la violence du geste, il y a la violence du moment, mais il y a aussi quand même, il faut le dire, ce pas de danse. Enfin, d'ailleurs, des internautes l'ont comparé à une photo de John Travolta. Il y a quand même quelque chose de très cinématographique et très scénique. Et donc, finalement, il n'y a que la photographie qui peut arriver à mélanger comme ça différentes émotions, de la peur, de l'effroyable à un pas de danse et de la légèreté.
Avec aussi beaucoup de projections. Parce que, encore une fois, la comparaison intéressante, c'est entre l'image fixe et l'image vidéo. Et on pourrait reparler de la photographie du petit Aylan, qui est exactement le même cas. Parce que Aylan, on a aussi la vidéo. Et la vidéo raconte autre chose que cette image qui sélectionne un petit enfant seul sur une plage.
Mort, le nez dans l'eau.
Alors qu'il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres gens, etc. Et donc là, on voit que la photographie travaille, hein, le réel, sélectionne quelque chose qui va ensuite devenir le sujet d'un récit.
Je voudrais dire un tout dernier mot, mais rapidement, sur cette photographie pour passer aux autres. C'est que vous la comparez dans votre blog, André Gunther, à une autre image d'un régime encore très différent. Le film de Zapruder sur l'assassinat de Kennedy. C'est pourtant deux choses complètement radicalement différentes. Quel est le point commun entre cette photo-là et le film de Zapruder ?
Ce sont les quelques photos d'assassinat, hein, photos et films d'ailleurs, puisque Zapruder c'est un film dont on extrait aussi des images. Il y a la photographie d'Eddie Adams, l'exécution d'un prisonnier par le chef de la police au Vietnam en 68. Ce sont des images qui se comptent sur les doigts d'une main ou des deux mains à la limite, et qui pour cette raison sont restées très exceptionnelles. Donc bon, il est assez clair que cette image aura probablement un destin et qu'elle va rester dans les annales. Maintenant, la question, c'est pour raconter quoi ? Parce que le fantasme de la Troisième Guerre mondiale, je crois que voilà, ça y est, ça, on s'en éloigne. Du coup, quelle va être la valeur de cette image et quel récit on va lui faire raconter ? Ça, je pense que ça reste ouvert.
On va parler d'un autre régime d'image qui a fait débat dans cette année 2016, qui a été changé d'ailleurs au cours de l'année. Il s'agit des photos de terroristes. Hein. Plusieurs médias, suite à l'attaque de Nice, ont choisi d'arrêter de diffuser les portraits des terroristes pour ne pas tomber dans l'écueil de la glorification involontaire de leur acte, qu'on pourrait interroger d'ailleurs sur cette même image dont on vient de parler. Et pourtant, ces portraits de terroristes sont en eux-mêmes des images souvent très à part. Hein. Il s'agit souvent de photos d'identité ou des extraits de caméras de surveillance ou de vidéos personnelles. Des images troubles, souvent en noir et blanc, inexpressives ou très pixelisées. Est-ce qu'il fallait, selon vous, l'un et l'autre, André Gunther, Lionel Charrier, interdire la diffusion de ces portraits ? Lionel Charrier.
Effectivement, nous en avons fait un événement en juillet avec une du journal, effectivement, un portrait anonymisé de terroriste où on a effacé volontairement le visage. Et dans tout l'événement du journal à l'intérieur, on a remis des images qui ont circulé sur les réseaux, des images de terroristes, avec à chaque fois l'anonymisation
Découpé en blanc,
hein, alors donc en une c'était noir et à l'intérieur on a plutôt mis des fonds blancs. Donc effectivement, c'est une question assez importante et difficile. C'est-à-dire que déjà nous, quand on parle d'un terroriste, on a peu d'éléments iconographiques. On a effectivement donc très rapidement, c'est la photo d'identité, c'est des photos Twitter, des photos Facebook récupérées, où ces terroristes se mettent en scène eux-mêmes dans une vie banale. Donc c'est cette banalité qui peut choquer. En revanche, nous, je pense que la solution n'est pas de ne pas montrer les terroristes. Ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est en revanche de faire attention à ne pas glorifier par la monstration de leur visage ou la monstration d'attitude, de pas glorifier un personnage ou des actes. En revanche, croire que par l'absence d'image, on nie ou on minimise des actes ou on minimise l'enrôlement possible d'autres personnes, puisque le débat il est là, c'est-à-dire que finalement on peut dire aux médias vous faites l'apologie des terroristes en montrant leur visage. C'est à ça qu'il faut faire attention.
Ce que je voulais dire en parlant d'un régime d'image spécial, c'est-à-dire que encore une fois, André Gunther, ces photos de terroristes, il s'agit souvent de photomatons, c'est souvent des visages très cadrés, coupés, de très mauvaise qualité. L'image qui m'est même venue en préparant cette émission, c'est de l'image d'une armée de fantômes, parce que on publie souvent leurs images après qu'ils ont été tués ou qu'ils se sont donné la mort, et on a toujours toujours ces espèces de portraits alignés les uns après les autres de mauvaise qualité qui ne sont très déshumanisés, très dépersonnalisés. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'il y a deux questions. Comme l'a bien expliqué Lionel Charrier, journalistiquement, on est face quand même à un problème extrêmement complexe et épineux qui est une catégorie d'acteurs, donc terroristes, qui se mettent en scène, qui produisent leur propre imagerie. Donc il y a des vidéos, ça a commencé comme ça, avec Daesh, les vidéos de décapitation, ça circule par ces images circulent par leurs propres moyens, par les outils de diffusion par Internet. Donc quand l'information reprend ce contenu, évidemment, elle est face au paradoxe qui est est-ce que remontrer ce contenu va redonner de l'importance à donner de la valeur finalement à ce que ça montre. La deuxième question, c'est que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de voir que ce débat, celui de Libération, qui a également été développé dans Le Monde et qui est donc un débat journalistique, et c'est très important. Moi, je trouve ça tout à fait justifié de se poser la question du traitement éditorial, mais ça a été aussi un débat sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, visiblement, même le grand public dispose d'une compétence en termes de lecture d'images et qu'on se pose la question, pas seulement de l'information que véhicule une image, mais à quoi est-ce qu'on donne de la valeur ? Comment est-ce qu'on montre les gens ? Est-ce qu'on les montre souriants ou pas ? Par exemple, donc, la photo de Mera souriant, ça, effectivement, c'est un problème. Donc ça veut dire qu'on a déjà une capacité de lecture symbolique et cette subtilité, finalement, de lecture des images qui se manifeste dans les débats. Moi, je trouve ça formidable et c'est vraiment une chose aussi très nouvelle.
Mais au-delà, évidemment, de la non-glorification de l'acte et de ce que vous notez à l'instant, c'est-à-dire de la présence des terroristes dans une posture qui serait choquante par rapport à la portée de leur geste meurtrier. Que pensez-vous juste de la nature de ces photos ? Encore une fois, j'insiste là-dessus parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, de ces photos, de ces petites photomatons, souvent en noir et blanc, souvent de très mauvaise qualité, souvent très anonymisées. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces photos-là, ces photos d'identité, André Gunther, de la nature de notre rapport à l'image de ces terroristes ?
A priori, pas grand-chose de plus qu'un problème de traitement journalistique d'une information qui, à un moment T, ne peut pas être différente de ces documents, en l'occurrence familiaux, décontextualisés. Je vous fais remarquer qu'il y a une autre catégorie d'images qui est totalement à mettre en parallèle avec les autophotographies des terroristes, ce sont les portraits des victimes, qui eux aussi, donc sont ces images banales. Absolument. Qui ont été reprises pour devenir une forme d'hommage.
Mais pour incarner.
Des monuments.
C'est-à-dire que les photos des victimes réincarnent
la
folie meurtrière, alors que les photomatons désincarnent les terroristes.
Voilà, donc le problème n'est pas dans l'image. Le problème, c'est ensuite dans ce qu'on en fait et dans ce qu'on leur fait raconter.
Oui, le statut de ces images, elle est assez simple. Et journalistiquement, ça s'arrête assez rapidement. C'est-à-dire que ce sont des documents. Donc, et justement, ce que vous parliez d'images un peu de qualité médiocre, noir et blanc, un peu flou, justement, ce traitement-là et le fait qu'on les reproduise telles quelles montrent leur valeur de document et pas plus que ça. Donc, le fait de montrer quand même leur visage, c'est aussi incarner quand même, incarner une peur, incarner un certain mal.
Il nous reste quelques minutes, j'aimerais qu'on passe à une autre image qui a suscité beaucoup de débats, qui a été proposée par des auditeurs sur le fil Twitter des matins. Il s'agit de l'une des nombreuses photos d'Alep et du massacre de la population civile. Une image qui a été soumise à débat, en savoir est-ce qu'il s'agissait de propagande ou pas de propagande. Il s'agit de cette photo d'un enfant hagard couvert de cendres, de sang après un bombardement de la ville, une photo de Mahmoud Reslan de Anadolu Agency. En quoi est-elle importante, cette photo ? En quoi est-elle puissante ? Et pourquoi fait-elle à ce point-là débat, André Gunther ?
Alors, la photo du petit Omran, d'abord, c'est une forme de citation quelques mois après la photo du petit Aylan. Mm-hmm. Donc, on a, au fond, la tentative de refaire, j'ai presque envie de dire, le coup d'Aylan, qui déjà était une image à caractère dont la circulation était propagandiste, puisqu'elle était diffusée par des mouvements militants pour sauver les migrants. Donc, propagande, moi, ça ne me gêne pas, si vous voulez, à partir du moment d'abord où on le sait, et ça, je crois que c'est aujourd'hui un décryptage que tout le monde fait sur les images d'Alep, sur les vidéos qui nous parviennent. Voilà, ce sont les habitants essayent de se défendre, essayent de faire passer un message personnages qui aient leur point de vue. Je crois que c'est tout à fait clair pour tout le monde. Et ils ont bien raison de le faire. Donc voilà, je crois que le problème n'est pas de ce côté-là. Il y a de ce point de vue-là, penser qu'il pourrait y avoir une image d'information totalement neutre et objective, je crois que c'est ça l'erreur et la gageure, c'est totalement impossible. Dans le cadre, en plus d'un conflit comme la Syrie, il y a forcément un point de vue. Voilà, les Russes n'ont pas le même que les Européens ou les Américains. C'est comme ça, c'est un conflit. Donc c'est pas ce caractère là qui est aujourd'hui très bien décodé, je pense. En particulier les internautes, on le voit dans les débats, appelons ça des images de propagande. Eh bien, la propagande, c'est parfois aussi très bien quand ça défend, par exemple, les migrants ou les habitants d'Alep.
Néanmoins, elles nous disent aussi autre chose, ces images, c'est que finalement, aussi puissantes soient-elles, qu'il s'agisse de la photo d'Aylan ou de cette photo-ci, elles ne changent finalement quasiment pas la perception que l'on peut avoir d'un conflit ou très peu à la marge. Elles ne font pas la révolution que la violence qu'elles induisent pourrait supposer.
Alors, oui, ça, je crois que l'erreur, évidemment, c'est de croire que les images changent le monde, pour reprendre quelque chose qui est en fait un récit journalistique. Hein, ce sont les médias qui ont construit, depuis très peu de temps d'ailleurs, j'ai vérifié, c'est en 69. Que le magazine Life commence à faire ses palmarès d'images dans des conditions très intéressantes et à essayer justement de prendre des images pour les décontextualiser, pour les déconnecter de leur contexte informationnel. Mais encore une fois, le problème n'est pas celui-là. Attendez, j'ai
oui, la question, c'était sur le fait que les images ne changent pas le monde. Vous dites même, elles participent à la formation d'un espace public.
Voilà, les images, si vous voulez, une image dans l'espace public, sont dans le journalisme, dans les réseaux sociaux, c'est comme une manifestation. C'est exactement comme une manifestation, c'est-à-dire des gens qui descendent dans la rue et qui manifestent, c'est-à-dire qui disent quelque chose, qui envoient un message. Donc ça, c'est important. On a vu, au cours de cette année, il y a eu des manifestations contre la loi travail. Est-ce que ces manifestations ont eu un effet politique réelle, visiblement non, très faible. Il n'y a pas eu de modification législative. En revanche, bien sûr que c'est important de manifester quelque chose dans l'espace public. Alors après, il y a une différence entre l'espace du symbole et l'espace de l'action qui relève du politique.
Oui, justement, il y a une différence entre l'impuissance et l'indifférence. Entre l'indifférence publique et l'indifférence des États. Donc ces images, elles suscitent quand même des émotions. Donc nous ne sommes pas indifférents face à ces images. En revanche, c'est là où elles nous renvoient à notre impuissance évidemment en tant qu'acteur public et l'impuissance des États à arrêter ce type de massacre malgré des images en direct aussi fortes soient-elles.
Qu'est-ce qu'on peut retenir encore de cette photo pour conclure sur cette photo et puis on dira un mot d'une dernière photo dans les quelques minutes qui nous restent sur la vision que l'Occident peut avoir de ce qui s'est passé du conflit en Syrie et particulièrement à Alep, André Gunther.
Alors moi je dirais que je suis pas du tout d'accord avec. Il y a eu un article dans le New York Times pour dire justement qu'est-ce qui a manqué aux images d'Alep pour ne pas mobiliser l'Occident. Et effectivement, comme le dit Lionel, ne confondons pas indifférence et impuissance. Il y a des conditions politiques de l'action qui sont ou ne sont pas remplies. Mais en revanche, à l'évidence, je ne crois pas du tout que nous soyons insensibles face à ces images. Et au contraire, le débat sur ces images montre à quel point elles nous touchent. Et donc, c'est un vecteur d'information absolument formidable. Imaginons une seule seconde ce qu'il en serait si nous n'avions pas eu ces images d'Alep et de la Syrie. Ce serait évidemment tout à fait intenable, insupportable. Donc, ces images, elles sont très importantes.
Lionel Charrier.
Oui, la même chose, c'est-à-dire que ces images sont importantes et elles doivent exister. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas changé, notamment dans le cas d'Alep, le cours des choses qu'il faut nier l'importance de ces images et la portée quand même de ces images, à la fois par les gens qui les font. C'est-à-dire que quand même, leur, c'est aussi une arme, c'est leur seul moyen d'expression. C'est, enfin, pas seul, puisqu'il y a aussi sur Twitter des témoignages forts, mais en tout cas, par l'image, c'est pour eux un devoir et une arme importante de dire « regardez ce qui se passe, regardez ».
Merci beaucoup André Gunter et Lionel Charrier d'avoir accepté notre invitation pour conclure cette année 2016 et pour parler des images qui auront marqué nos imaginaires individuels et collectifs tout au long de l'année. André Gunter, je rappelle que on peut vous retrouver notamment sur votre blog Images Sociales. Vous avez également écrit l'image partagée aux éditions textuelles. Et puis Lionel Charrier, eh bien chaque jour dans les pages de Libération.
Notamment demain. Puisqu'on a une grande rétro, beaucoup en images, qui paraît demain, avec notre Obama et Poutine qui s'embrassent en une du journal.
Ça, c'est en une de Libé. Et puis, je vous renvoie également au Parisien Magazine de cette semaine, 2016 en photo. Voilà, une édition exclusivement composée des photos mois par mois qui ont fait cette année 2016, dont certaines des photos dont nous avons parlé au cours de cette matinale.